Bienvenue sur la chaîne Ambiance, Architecture, Urbanité, AAU.
Particulièrement à l'aise pour terminer cette journée. Je trouvais énormément de choses à relever et donc ma démarche a été d'essayer de tracer un fil entre les notes que je pouvais avoir récoltées de ce que j'entendais des uns et des autres pour essayer à ma manière, et j'imagine que vous avez chacun la vôtre, de tirer parti de ce qui s'est dit aujourd'hui, donc avec le point de vue qui est le mien. Alors peut-être puisque effectivement il y avait une dimension d'autobiographie dans cet après-midi, peut-être dire aussi quel est le point de vue qui est le mien, juste en l'illustrant d'une anecdote qui est mes diverses rencontres avec Jacques Allégret. Je ne sais pas si, alors voilà, c'est même plus les années 80, c'est les années 70. Un chercheur qui avait la particularité d'être aussi urbaniste à la UA, l'atelier d'urbanisme et d'architecture, et qui a concentré ses travaux de recherche sur les architectes, sur les marges, sur les architectes ordinaires, justement, sur les architectes méconnus, et qui me disait, bah, tu vois, on travaille tous les deux sur le champ de l'architecture, mais toi tu travailles sur le dedans, et moi je travaille sur les frontières. Donc effectivement, le début de mon regard de chercheur est un regard sur le cœur du champ de l'architecture, et du coup je fais allusion à Claire Bourdieu avec une autre notion qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui, le champ donc comme processus en fait de production d'illusio et de stratification symbolique dans ce groupe professionnel. C'est ce qui m'a donné envie de passer de mes études d'architecture à la recherche en architecture. Donc peut-être la première observation qui me vient à l'esprit, c'est celle de la coprésence dans vos propos, très souvent, des deux termes d'ordinaire et de quotidien. Et je ne suis pas sûre que la journée m'ait suffi à moi pour déterminer les relations entre ces deux notions. Je vois bien qu'au quotidien, on rattache des notions de temporalité, d'usage, de mode de vie. On fait allusion à Henri Lefebvre. On pense aussi, j'ai pensé aussi à la mise en scène de la vie quotidienne. Quand Laurent a lu un passage de Georges Perec sur la rue, moi je pensais à un passage d'Erwin Goffman sur la mise en scène de la vie quotidienne et le chapitre qui s'appelle Les marqueurs, je crois, de l'espace, où il expose comment on utilise des objets, Jean-Yves, pour marquer temporairement des espaces comme une place dans le train quand on va boire un café, ou voilà, comment on dispose des objets, et quels objets on laisse pour marquer cet espace, donc avec suffisamment d'importance et de personnalisation pour que tout le monde comprenne que cet espace est rattaché à une personne, mais pas trop précieux non plus, pour ne pas courir le risque de ne plus retrouver au retour. Donc il y a de la quotidienneté dans beaucoup de choses que vous avez dites, mais voilà, je reste en question sur le rapport avec l'ordinaire. Je trouve que la notion d'habituation, qui est passée très rapidement dans le propos d'Axel Pavero quand elle parlait de la friche, qui m'a aussi fait penser à Georges Perec, qui mentionne le fait que face à un chantier de démolition, en général, on a déjà oublié ce qu'il y avait avant, dès qu'on constate l'existence du chantier. Donc cette notion d'habituation me semble très intéressante, l'habituation du regard, habituation face au processus ordinaire dans lesquels on est pris, peut-être une piste pour aller plus loin. Donc voilà, première mention sur cette notion de quotidien et l'indétermination dans laquelle je reste par rapport à celle d'ordinaire. Ensuite, il y a un ensemble de réflexions qui me sont venues autour de la question de l'ordinaire des lieux et de l'ordinaire des pratiques de ces lieux. Je remarque effectivement cette attention à cet urbanisme des petites choses. C'était une formule qu'on a qu'on a trouvé dans un mémoire d'architecte HMOP, dont on a pu, avec une enquête qui a porté sur une cohorte entière de jeunes architectes en habilitation, on a pu définir dans les professionnalités dont ils faisaient montre, dans leur, notamment dans leurs travaux de mémoire, justement cette modestie, cet affichage de la frugalité et de cet urbanisme des petites choses qui revient dans des termes différents dans beaucoup de propos de ces jeunes architectes. Donc un virage qui s'intéresse moins aux grands projets et davantage à des petites interventions, un peu comme si l'expérimentation changeait de camp. J'avais envie de le dire de cette manière-là, comme si c'était plus dans les grands projets qu'on allait chercher la nouveauté, l'intérêt, mais qu'on allait la chercher dans des choses modestes, frugales, l'acupuncture, voilà, je pense à tout ce qu'on va regarder dans les écoles d'architecture du côté des architectes du monde rural, Bernard Thirault, etc. Donc une expérimentation que je change de camp. Je pensais aussi à cette difficulté que je trouve patente en ce moment et qui me donne envie d'ouvrir des programmes de recherche assez ambitieux sur le mainstream, parce qu'il me semble qu'en fait, en voulant s'attacher à la question de l'ordinaire et à la question de l'alternatif, on laisse de côté une compréhension plus claire de ce qui constitue ce mainstream, qui est peut-être celui de la ville néolibérale que décrit Gilles Pinson, et qui finalement nous est pas si bien connu que ça, me semble-t-il, hein, dès qu'on doit expliciter un peu les rapports entre les architectes et les promoteurs. Enfin, on est très vite limité par des idées préconçues, par des... Voilà. Et donc, c'est comme si la recherche, en fait, allait, et là, ça me refait penser à Pierre Bourdieu, si la recherche allait plus spontanément sur des objets qui sont plus valorisés sur le plan idéologique, et qu'on était plus satisfait d'aller travailler sur des objets qui plaisent, plutôt que sur des objets que l'on aborderait par la critique. Donc là, il me semble une question assez importante. Je suis en train de piocher dans la quatrième partie de mon propos, mais sur la question de la hiérarchie symbolique des objets de recherche. Et ça me rapproche de ce que disait Laurent Mathé sur l'idée, enfin, ou la crainte, que l'ordinaire devienne une religion. Je ne sais pas si je trahis Laurent, mais... voilà, sur aussi cette réflexivité sur la manière dont on désigne nos objets de recherche et les méthodes que l'on privilégie pour les aborder. Alors, je reviens du coup plus dans le fil que je m'étais donné. Oui, donc il y a toute cette question de l'ordinaire des lieux, de l'ordinaire des pratiques de ces lieux. J'ai trouvé très intéressant le débat sur cette question de l'habitant, de l'individu ordinaire quand il devient objet de recherche, quand il s'en fatigue avec des recherches réitérées sur les mêmes terrains, quand lui-même devient chercheur, qui développe une contre-expertise, une contre-enquête, une autre enquête, une autre expertise, notamment dans les collectifs que nous a décrit. Ah, je n'ai pas mis le nom, excusez-moi. Lucille Garnier. Et je pensais aussi à cette approche de l'ordinaire que nous décrivait la semaine dernière dans une réunion du LAVU. Ah oui, j'en profite pour corriger. Non, elle n'y est plus, mais en aucun cas je ne suis de l'UMR LET. Le LET n'est pas une UMR, on est 15 ou 20 chercheurs à tout casser. Donc on est une équipe de l'UMR LAVU. Et on entendait l'autre jour une de nos collègues qui est sociologue, anthropologue et photographe, Sylvaine Connor, et qui a fait son HDR sur justement l'usage de la photographie en socio-anthropologie, et qui a travaillé longtemps comme photographe. Sur la migration, les migrations notamment juives séfarades dans le quartier de Belleville. Et elle nous expliquait bien comment la photographie supposait d'apprivoiser son objet Et je pensais à ce que disait Laurent sur le braconnage. Voilà, il y a deux postures différentes. Apprivoiser son objet, même pour le prendre en photo, ce qui, comme elle l'expliquait, pouvait prendre des journées entières, en fait, pour réussir à faire passer cette proximité qu'implique la prise d'un cliché. Voilà, c'est peut-être différent du braconnage, un peu piégeux, de Laurent, comme manière d'attraper des choses qui se défilent à notre observation. Donc voilà peut-être pour ce que j'ai retenu sur l'ordinaire des lieux et des pratiques de ces lieux. Et puis beaucoup de choses sur l'ordinaire des pratiques d'intervention sur les lieux. L'ordinaire. Alors, en fait, j'aurais aimé revenir avec plus de finesse sur cette dualité qui nous est exposée ce matin entre ordinaire de la fabrique urbaine et ordinaire dans la fabrique urbaine. Mais du coup, pour moi, là, ça sera plutôt la question de l'ordinaire des pratiques d'intervention sur les lieux. Je trouve effectivement comme amorce intéressante la remarque de Nicolas sur il y a de la gestion dans le projet, il y a du projet dans la gestion, parce que ça va de pair avec, je trouve, toute une ouverture de problématiques nouvelles de considérer le projet dans le temps long et de redonner à la gestion des lettres de noblesse qu'elle était loin d'avoir dans les disciplines qui sont les nôtres traditionnellement dans le monde des études architecturales et urbaines, on va dire, pour faire un ensemble. Donc j'ai en fait écouté tout ce qu'on a entendu ce matin sous l'angle aussi de ce que Gilles Janot a écrit sur les métiers flous. Je pensais à ce que Michael Lipsky a écrit sur la street level bureaucratie, qui fait écho à ce que je crois Laurent appelait cette vision de la politique publique. Non, c'était Laurent Maté. La politique publique par le bas. Je pensais aussi à cette expression des soutiens de l'urbanisme croisée à l'occasion d'un travail sur le référentiel métier des urbanistes, où on s'interrogeait justement sur les petits métiers de l'urbanisme, ceux qui sont de catégorie C ou D, comme les instructeurs, B ou C, les instructeurs des autorisations d'urbanisme. Et je pensais aussi au label Sutures Urbains, où il y avait à Paris-Est un intérêt porté sur les métiers de la ville, mais sur les petits métiers de la ville, et où on avait écouté des exposés sur les commerçants bio dans les quartiers en voie de gentrification, ou sur les placeurs dans les marchés. Voilà, tout un champ qui s'ouvre, qui manifeste d'ailleurs cette opposition qu'il y a eu, je ne sais pas si vous avez pu en avoir des échos, entre la sociologie des professions et la sociologie des groupes professionnels ou des activités professionnelles, puisque justement, par rapport à la sociologie des professions qui, au sens américain du terme, s'intéresse essentiellement aux professions intellectuelles supérieures, il y a eu à un moment la revendication de travailler sur des petits métiers, et donc de qualifier ça de sociologie des activités professionnelles ou des groupes professionnels. Donc tout ce travail sur ces métiers flous, sur cette politique publique vue par le bas, j'ai noté avec intérêt la bienveillance avec laquelle elle allait, je crois que c'était Laurent Maté qui parlait de cette observation de l'intérieur comme aussi un moyen de développer une empathie par rapport aux acteurs qu'on observe. C'est peut-être plus simple, effectivement, dans un objet ordinaire, de développer de l'empathie avec les objets qu'on observe, avec lesquels on peut partager davantage de valeurs. Donc ces arts de faire la ville, qui ne sont effectivement pas forcément du registre des compétences ou des savoir-faire stéréotypés, prédéfinis. Et puis voilà, j'ai noté à plusieurs reprises cette remarque d'une fascination qu'on peut avoir en tant que chercheur, d'avoir accès à des situations aussi banales, cette formule de la fascination pour les coulisses de l'action, pour la banalité de l'action, pour le quotidien de l'action. Un banal qui serait, je crois que c'était Pascal qui disait ça comme ça, un banal extraordinaire à observer. Parce qu'effectivement, la capacité qu'on a d'accéder au banal n'est pas si simple et si ordinaire que ça. Alors pour en arriver à mon quatrième point, où il y a finalement énormément de matière, qui est celui du chercheur par rapport à l'objet ordinaire, moi j'ai noté tout au long de la journée cette réflexivité dont parlait Charles Ambrosino à partir des écrits de Donald Schoen, la réflexivité sur cette fascination, hein, dès le début, dans l'introduction d'Élise, ce souci de prendre du recul critique par rapport au grand récit, le souci de la déspectacularisation, des friches, des traces mémorielles, des friches industrielles. Donc voilà, une grande réflexivité sur cette et distanciation sur cette dimension assez fascinatoire que peuvent avoir certains objets ordinaires de recherche, qui va de pair avec l'attention qu'on pourrait porter à la vision enchantée qu'on a tendance à développer sur les questions auxquelles on prête attention. Alors je notais c'est trop récent dans l'après-midi pour que j'ai eu le temps d'y réfléchir plus que ça, mais il m'a semblé que se sont exprimées trois postures de chercheurs en fait dans l'après-midi. Alors il y avait la posture de Pascal en commentaire au petit film expérimental qu'on a vu et entendu, de la revendication pour le chercheur de pouvoir aller dans des registres de la poésie, du sensible, autant dans la manière dont il observe que dans la manière, si j'ai bien compris, dont il restitue ses observations. Presque à l'extrême opposé, la position de Jean-Yves qui nous dit attention à l'engagement, attention à la subjectivité, la science a aussi, je caricature sûrement, hein, la science a aussi une importance privilégiée, de tiers de confiance, de tiers neutres. Donc voilà, il y a là une distance assez importante dans le positionnement. Et puis il y a la troisième posture qui a été assez présente aussi ce matin, notamment dans la question de l'aménagement cyclable, de la place du militantisme du chercheur dans son travail de recherche, de la manière notamment dont le militantisme du chercheur peut finalement catalyser des embryons militants dans les services ou dans les systèmes d'acteurs et leur permettre une expression plus forte qui permet aussi d'orienter l'action. Donc voilà, entre chercheurs militants, chercheurs poètes, chercheurs scientifiques et neutres, on a là des postures qui oscillent et l'ordinaire nous questionne bien sur ces trois volets, il me semble. Peut-être que je ne suis pas sûre de tout retracer ce que j'avais en tête, mais je reprends un élément de la discussion de cet après-midi sur la question des nouvelles données qui nous arrivent à la fois par les réseaux sociaux, par les big data, par les open data. Et ça me semble effectivement une question très liée à une forme de granularité en fait des données qu'on a à notre disposition maintenant, qui nous permettent effectivement d'accéder autrement à l'ordinaire, à l'individu d'ailleurs, et éventuellement à la privacité de l'individu. Ça ouvre très clairement des champs nouveaux où porter le regard, et à mon avis, pour en avoir discuté avec des collègues, ça pose aussi la question de savoir qui se saisit de ces données. Au sens disciplinaire du terme, hein, on voit beaucoup de chercheurs en sciences exactes, davantage habitués que nous peut-être aux travaux quantitatifs, au maniement de grosses bases de données. On voit beaucoup des physiciens, des mathématiciens, des informaticiens s'emparer des données qui viennent de ces outils-là, les réseaux sociaux, les big data, les open data, pour faire finalement de la science sociale, urbaine ou pas urbaine. Et c'est peut-être une question à avoir en tête, nous, de notre côté aussi. Bon, je vais en arriver à ma conclusion. En tout cas, voilà, en essayant d'avoir un peu relu toutes mes notes en vrac, évidemment. Je pensais à cette situation un peu particulière où, effectivement, il semble qu'il y ait une sorte d'intérêt partagé entre chercheurs sur la question de la quotidienneté, de l'ordinaire, de la participation, de la prise en compte des usages, enfin toutes sortes de choses qui relèveraient peut-être de valeurs sociales, de valeurs humanistes, avec un contexte dans lequel on se déploie tous, un contexte de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui semble mettre plutôt l'excellence, la concurrence, le prestige au cœur de ces discours et de ces politiques. Donc peut-être aussi une question dans des temps, comme c'est un peu tendu dans les écoles d'architecture en ce moment, pour d'autres raisons. Malgré tout, il y a, me semble-t-il, la mise en visibilité d'une tension entre les valeurs qui sont celles des chercheurs et les valeurs qui sont celles des politiques de recherche qui les conduisent. Et je voulais juste conclure en reprenant la question qu'a posée Élise ce matin dans l'introduction, qui m'a semblé une question d'une extrême humilité et d'une extrême prudence, qui était de se dire, est-ce que la recherche perd quelque chose à se focaliser sur l'ordinaire? Alors, je ne sais plus comment ça avait été dit, c'est comme ça que je l'ai retenu. C'est une question qu'il faut garder en tête probablement. Donc effectivement, l'idée d'en faire une religion est un écueil auquel il faut prêter attention. Mais l'ensemble de cette journée me semble plutôt rassurante à cet égard. Je ne sais pas quelle sera la réaction d'Élise, parce qu'il me semble qu'il y a énormément à apprendre de l'ordinaire. Et que la réflexivité qui s'est manifestée aujourd'hui semble laisser entendre qu'il n'y a pas trop de risques à s'enfermer dans cette micro-échelle sans du tout la prise de recul que ça pourrait effectivement engendrer. Donc voilà un peu ce que je retiens moi de cette journée, qui évidemment est extrêmement partielle et qui a quelque chose à voir avec mes centres d'intérêt et les références théoriques qui sont les miennes. Mais voilà, j'espère ne pas avoir trop trahi les uns les autres. Et j'espère qu'on a aussi un petit moment de...
On peut prendre un petit temps. En tout cas, un grand merci pour cette synthèse située, pas si partielle que cela, me semble-t-il, et puis qui ouvre aussi des perspectives sur quelques points aveugles, des surprises ou des termes peu utilisés. Je reprends le début de ton propos. Merci. Je pense à l'habituation, par exemple. Peut-être aussi dire, je ne sais pas s'il y a d'autres choses, n'hésitez pas, mais que ces matières à penser, on les travaille aussi dans le cadre du carnet d'hypothèses qu'on a mis en place, dédié, et ça c'est aussi une manière pour nous de faire fructifier les réflexions, de dire que le colloque de l'automne, il n'est pas sans lien avec tout ce qu'on met ici en pâture ou en culture, c'est sûr. Dire aussi que nous ne sommes que la veille de la journée numéro 6, ça c'est peut-être bien de dire aussi finalement, parce que...
Non, c'est parfait, c'est très bien.
Bon alors voilà, c'est juste pour nous inviter collectivement, est-ce que demain, sur cette question de... Je cherche l'intitulé demain, expérimenter les écritures.
Expression
des formes sensibles.
Expression des
mondes perçus. ça c'est le programme de demain, c'est à partir de 9h30, c'est probablement dans la même salle.
Oui,
parce que là, je n'ai pas suivi ça. Et puis peut-être, au nom d'Élise, Kevin, Axel, vous dire que voilà, on était contents d'organiser cette journée. C'est évidemment toujours du travail en coulisses, sur les plans techniques, sociaux, humains, relationnels, et qu'on est plutôt contents des échanges qui ont été permis par cette journée à chaud.
Moi, je vous remercie, vous. Je l'ai fait ce matin, mais je vais le refaire. Donc, merci Laurent, merci Axel, merci Élise et merci Kevin pour cette organisation. Merci encore une fois à nos intervenants pour pour vos différentes interventions et votre aide, parce qu'on a aussi besoin de vous pour pouvoir avancer sur nos propres travaux. Et puis, je vais faire un rappel pour la journée de demain. Cette journée, comme les 5 premières, elle est ouverte à tous et à toutes, et elle est ouverte aussi à tous les doctorants. Voilà, on aimerait voir un petit peu plus nombreux demain. Voilà, donc de part et d'autre, hein, côté grenoblois comme côté nantais.
Mais ça ne s'adresse pas à ceux qui sont là.
Voilà, évidemment. Voilà, donc passez le message si vous pouvez. Voilà, donc continuons ces journées et puis à demain donc pour ceux qui seront encore là. Et merci encore.